Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'agonie d'Omaïra Sanchez. Le 13 novembre 1985, la ville d'Armero, en Colombie, est rayée de la carte par une éruption volcanique. De cette catastrophe, la mémoire collective retient un nom et un visage, celui d'Omaïra Sanchez, 13 ans. Coincée dans les décombres de sa maison, cette adolescente au visage d'enfant a survécu pendant 60 heures dans l'eau et dans la boue avant de mourir sous les yeux des secouristes impuissants. Son agonie fut photographiée, filmée et fit la une des journaux télévisés du monde entier. Tous ceux qui virent alors le visage de la fillette sur l'écran de leur télévision ou en une de Paris Match ne l'oublièrent jamais. Omaïra n'était pourtant qu'une parmi des milliers de victimes de la catastrophe volcanique, la deuxième la plus meurtrière du XXe siècle. En pleine nuit, 22 000 des 30 000 habitants d'Armero ont trouvé la mort, engloutis par une gigantesque avalanche de boue qui a dévalé d'un volcan voisin. Les images insoutenables du calvaire d'Omaïra ont fait d'elle le symbole de cette tragédie. Plus de 30 ans après, son regard continue de nous fixer et de nous poser d'obsédantes questions. Pourquoi personne n'a réussi à la sauver? En filmant et en diffusant l'agonie d'une enfant, les médias sont-ils allés trop loin? Notre invité aujourd'hui, Jean-Stéphane Carnel, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'université Grenoble-Alpes, auteur d'un article sur le drame d'Omaïra, intitulé « Le regard qui traumatisa la télévision ». Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Jean Brossier, coordination Franck Cognard. Chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Étienne Bertin.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
« 17 novembre 1985. Dans les bureaux d'Antenne 2, principale chaîne publique française, le journaliste Noël Mamère est en pleine préparation du journal de la mi-journée, Antenne 2 Midi. Parmi les sujets traités ce jour-là, la catastrophe d'Armero. Cela fait déjà 4 jours que la ville colombienne a été détruite par une coulée de boue. Des opérations de sauvetage continuent pour tenter d'extirper les derniers survivants des décombres. Mais Armero ne fera pas la une du journal. D'abord parce que l'actualité n'est plus si chaude et les Français se désintéressent progressivement de cette catastrophe lointaine dont le bilan humain, 22 000 morts, semble abstrait. Et puis, facteur aggravant, ce matin-là, aucune nouvelle image de la catastrophe n'est parvenue à la rédaction d'Antenne 2. Noël Mamère décide donc de consacrer une brève à Armero et ses milliers de victimes.
L'heure de la diffusion approche. Au point que à 12h45, 12h43, je suis descendu du troisième étage au sous-sol, dans le studio, convaincu que je n'aurais pas d'image d'Armero et que je ferais ma brève. J'ai donc ouvert le journal, j'ai lancé le premier sujet, et pendant le premier sujet, j'ai vu le chef d'édition arriver dans le studio tout essoufflé, tout pâle, vraiment le souffle très très court, me dire « Noël, écoute, on a gardé les images, on a finalement eu les images des échanges sur la Colombie, fais gaffe, c'est très fort, n'en fais pas trop. » C'est ainsi que j'ai découvert, comme des millions de Français en même temps que moi, le visage de cet enfant avec les yeux bouffis et mi-clos, n'exprimant que des râles et prisonnière de la boue.
Un quart d'heure plus tard, c'est au tour de TF1 de lancer son journal télévisé du midi. Les images de Colombie sont parvenues à temps à la rédaction concurrente et font l'ouverture du journal. Mais qu'ont-elles de si exceptionnel, de si fort? Eh bien, on y voit une petite fille, filmée en gros plan, enfoncée jusqu'au cou dans une flaque boueuse. Elle a les cheveux coupés courts, le visage rond et des yeux olivâtres qui fixent obstinément le spectateur. Sa main gauche est agrippée à un tronc d'arbre suspendu au-dessus d'elle. L'air épuisé, elle adresse quelques mots à la caméra en espagnol. Cette petite fille, c'est Omaïra Sanchez. Et au moment où sont diffusées ces images, elle est déjà morte depuis plus d'une journée.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. le document que vous allez voir dans quelques secondes restera gravé, toujours, dans nos mémoires. C'est la mort d'un enfant, la mort d'une petite fille qui luttait pour la vie de toutes ses forces depuis 50 heures. La petite Omaira, prisonnière du fleuve de boue qui a dévasté la ville d'Armero en Colombie à la suite de l'éruption du volcan, a voulu croire jusqu'à sa fin que le destin de sa vie ne s'arrêterait pas si tragiquement tôt. Marine Jacquemin et Guylaine Laurent.
Chaque catastrophe a sa lueur d'espoir. À Armero, elle s'appelait Omaira. Elle avait 10 ans. Je ne sais pas quoi dire, je ne trouve pas les mots. Maman, si tu m'entends, je crois que oui. Prie pour que je puisse marcher de nouveau, pour que ces gens ici continuent à m'aider. Maman, je t'adore. Je t'aime, papa, mon frère aussi. Adieu, maman.
Ces images de l'agonie d'Omaira et ces mots stupéfient la France. La catastrophe d'Armero, jusqu'ici lointaine, s'invite brutalement dans le foyer de millions de Français à travers la voix et le regard suppliant d'une toute jeune fille mourante. Alors pour comprendre comment un tel drame, la mort d'une enfant sous les yeux effarés du monde entier, a été possible, remontons le temps d'une semaine. Et revenons à Armero, la ville dans laquelle Maïra a grandi, a été heureuse avant de connaître cette fin tragique. La ville blanche, c'est la culture du coton qui a donné ce beau surnom à Armero, situé à une centaine de kilomètres de Bogota, la capitale. Fondée en 1985, elle est une ville prospère. Outre le coton, on y cultive le café et le riz. Les habitants, les armeritas, sont réputés bons vivants. La ville compte un théâtre, de nombreux parcs où l'on aime se retrouver l'après-midi, un country club prisé par la haute société, des discothèques où danser les soirs d'été. Autant de paradis perdus dont les survivants de la catastrophe se souviennent encore avec nostalgie. La petite Omaira Sanchez grandit au sud de la ville, dans le quartier de Santander. Sa famille est modeste, sa mère est aide-soignante, son père ouvrier agricole. Inscrite au collège de la Sainte Famille, Omaira est une excellente élève et enchaîne les premiers prix. En 2007, sa mère, Aleida, et son frère, Alvaro, évoquent le caractère de la disparue devant les caméras de France 2.
Omaira était une petite fille très gaie. Elle n'était pas du genre à se plaindre.
Elle était très studieuse, très dévouée.
Elle me disait, « Maman, quand j'aurai mon bac, j'irai étudier pour devenir architecte. Et je vous emmènerai vivre à Bogota pour que vous soyez bien, sans vous tuer au travail comme vous le faites ici. »
Comme tous les frères et sœurs, on se chamaillait, bien sûr.
Elle était à la fois ma fille et mon amie.
Depuis sa naissance, la petite Omaira vit à l'ombre d'une menace diffuse que les habitants de l'Armero aperçoivent au loin et qui porte le doux nom de Nevado de la Ruiz. Situé à 70 km d'Armero, le Nevado est un volcan de la cordillère des Andes culminant à 5321 mètres d'altitude. Dans la région, on le surnomme le lion endormi. En 1845, une terrible éruption avait déjà fait 1000 morts, un traumatisme inscrit dans la mémoire collective. Le 11 septembre 1985, après 69 ans d'inactivité, le lion endormi se réveille. Vapeur, cendres et pierres jaillissent du cratère pendant près de 7 heures. À Armero, on ne s'inquiète pas tout de suite. Le volcan, le cratère, paraît trop loin de la ville pour constituer un danger immédiat. Mais dans les jours qui suivent, de lucides observateurs avertissent du danger que court la ville. Le 17 septembre, le président de la Croix-Rouge du département déclare dans l'influent journal El Tiempo, « Avec ses 30 000 habitants, Armero pourrait disparaître si une coulée de boue descendait le long de la rivière La Guinira. » Son inquiétude est la suivante. Si pour le moment, l'éruption du Nevado paraît inoffensive, que se passerait-il si les glaciers au sommet du volcan venaient à fondre au contact de la lave ? Une coulée de boue serait alors déclenchée, que dans le jargon volcanologique on appelle un lahar, et qui compte parmi les phénomènes volcaniques les plus meurtriers. En octobre, des géologues réalisent une carte des risques qui confirme toutes ces craintes. Cette carte démontre que si un puissant lard venait à se former, la ville d'Armero serait probablement sur sa trajectoire. Pourtant, aucune évacuation n'est organisée. Pire, ces alertes scientifiques ne sont pas prises au sérieux. Le 4 octobre, la chambre de commerce de Manizales, une ville non loin du Nevado del Ruiz, critique des articles de presse alarmistes qui causent, selon elle, des pertes économiques de grande ampleur dans la région. Avis partagé par l'archevêque de Manizales, qui fustige, je le cite, « ceux qui profitent du volcan pour monter de campagnes de dénigrement contre le département », parlant même de terrorisme informatif. Le 6 novembre 1985, un événement politique dramatique va achever de détourner l'attention de la menace que constitue le réveil du Nevado del Ruiz.
C'est par un véritable carnage que s'est terminé l'assaut du palais de justice de Bogota, la capitale de la Colombie. Il est encore impossible de dire combien il y a de morts, mais certains avancent le chiffre d'une centaine, tant du côté des otages et des militants du mouvement M19 qui avaient investi le palais, que du côté de l'armée et des forces spéciales de police qui ont donné 3 fois l'assaut au bâtiment. Parmi les otages exécutés par les guerrilleros figure le président de la Cour suprême, Alfonso Reyes, qui avait supplié les autorités de négocier et de cesser leurs assauts répétés contre le palais de justice. Mais le président de la Colombie, M. Betancourt, s'y est refusé.
La réplique sanglante de l'armée à la prise d'otages du palais de justice plonge le pays dans une crise majeure. Le gouvernement Betancourt est happé par la gestion des retombées du drame et le danger volcanique passe au second plan. Sur place, les autorités locales se contentent de faire la seule chose en leur pouvoir, rassurer les habitants. Au point que le matin du 13 novembre, à Armero, la population est convaincue qu'il n'y a rien à craindre. Et Omaira Sanchez se rend comme d'habitude à l'école de son quartier. Dans l'après-midi, le Nevado del Ruiz va pourtant envoyer un dernier avertissement. Une pluie de cendres s'abat sur la ville et recouvre tout, maisons, voitures, linge suspendu aux fenêtres. Et une nouvelle fois, les autorités temporisent. À une femme qui s'inquiète de la pluie de cendres, le prêtre de la ville répond « Profitons de ce magnifique spectacle que peut-être nous n'aurons jamais la chance de revoir. » Et à la messe de 7h, l'inconscience en bandoulière, le curé continue d'appeler au calme. On nous a dit depuis le haut-parleur de l'église de ne pas nous inquiéter, de nous appliquer un chiffon mouillé sur le visage et de bien fermer les maisons. Voilà, explique une survivante. Après sa messe, le prêtre part pour Ibagué, la capitale départementale, avec ses affaires personnelles, abandonnant ses administrés à leur sort. « Ne vous en faites pas », disait-il. Alors, rassurée en ce soir du 13 novembre, la famille Sanchez, comme la plupart des habitants d'Armero, est devant la télé pour regarder la finale du championnat de foot colombien. Omaira est triste de l'absence de sa mère à ses côtés, partie à Bogota quelques jours plus tôt pour son travail. Vers 23h, elle part se coucher en compagnie de son frère, son père, sa tante et sa petite cousine. Quelques dizaines de minutes plus tard, un piège terrible a déferlé sur la ville. Le lard, tant redouté, arrive sur Armero.
Du magma frais, donc à plus de 1000 degrés de température, est enfin arrivé à la surface, a été expulsé par le cratère. Ce magma a fait fondre immédiatement, comme au Calbuco que donc, j'ai vécu en 1961 au Chili, a fait fondre une énorme quantité de glace, puisque le cratère est bardé de glaciers. Et cette eau de fonte, par millions, peut-être par milliards de mètres cubes, s'est précipitée vers le bas, ravinant les flancs du volcan, donc se chargeant d'autres milliers de tonnes, de millions de tonnes de terre, de poussière, de roc, d'arbres, etc., a dévalé à une vitesse terrifiante, c'est terrible. Ces torrents de boue que nous appelons dans le jargon volcanologique par le mot indonésien de lahar, ce lahar s'est précipité vers le bas et est allé remplir une vallée et les villes et les villages qui se trouvaient sur son chemin y sont passés.
Vers 21h, alors que le lahar commence à dévaler les pentes du Nevado del Ruiz à la vitesse d'un cheval au galop, les autorités locales prennent enfin la mesure du danger et ordonnent l'évacuation d'Armero. Mais un puissant orage a coupé toutes les lignes de communication avec la ville et avec elle, la dernière chance de sauver les habitants. À 23h30, un mur de boue de plusieurs mètres parvient aux portes d'Armero. Et le lard engloutit d'abord la centrale électrique, plongeant les habitants dans l'obscurité. Certains ont le temps de se ruer vers leur voiture et de prendre la fuite. D'autres parviennent à monter sur les toits de leur maison avant d'être atteints par la boue. Mais la plupart sont surpris dans leur sommeil. Hommes, femmes, enfants, animaux rencontrent alors une mort terrible. Écrasés sous les décombres de leur maison, étouffés lentement dans la boue ou broyés par les innombrables débris charriés par le courant. Le lendemain, quand le soleil se lève, Armero n'est plus. Il ne reste rien. La ville est rasée à 90%. On dirait qu'elle est recouverte par les sables, comme une immense plage, déclare un pilote d'avion qui survole la ville quelques heures après la catastrophe.
La vision véritablement de cette masse de boue, dans une odeur pestilentielle de soufre et de mort, est insupportable. On devine des corps éventrés, déchiquetés, on voit des visages, des mains, des jambes, seule partie visible de ces corps qui ont été submergés par la vague de boue, d'arbres et de pierres. La force de cette vague a été telle qu'elle a projeté des corps sur la cime des arbres. Le nombre des victimes est tellement important que déjà, les autorités colombiennes envisagent de déclarer cette vallée zone sainte. La vallée, cette vallée si riche, ne serait plus alors qu'un immense tombeau.
Le lendemain matin, à l'aube, les secouristes de la Croix-Rouge arrivent sur les lieux. C'est la sidération. Partout autour d'eux, des corps se débattent dans un macama boueux pour échapper à la mort. Nus, car leurs vêtements ont été arrachés par le torrent, enduits d'une terre couleur cendre, l'air hagard, les rares survivants semblent revenus d'un autre monde. À l'espoir de venir en aide aux sinistrés, succède l'abattement. Il est difficile aux secouristes de progresser à pied dans le vaste cloaque qu'est devenu Armero. Alors, pour se déplacer, ils construisent des chemins de fortune à l'aide de sacs de café en toile. Il manque de tout pour apporter de l'aide, de pelles, de pioches, de médicaments. Et puis, dans cet océan de désolation, surgit une lueur d'espoir. Un volontaire aperçut un bras d'enfant qui s'agitait. C'est celui d'Omaïra qui a survécu miraculeusement. Elle est ensevelie dans les décombres de sa maison qui a été traînée sur une cinquantaine de mètres par le lard. Son père, sa tante et sa petite cousine d'un an et demi ont été tués sur le coup. Leurs corps sans vie sont enfouis, quelque part en dessous d'elle. Au sauveteur qui l'entoure, elle raconte la catastrophe. C'est comme si la terre avait basculé, la maison a fait mille tours. Ma tante, Inette, m'a saisi par les pieds, je la sens encore. Seul, son frère a pu s'en sortir. Au petit matin, il s'est extrait des décombres et a été emmené à Bogota avec d'autres survivants. Alors, les secouristes s'organisent pour sauver l'adolescente. Ils commencent par déblayer la boue et les débris qui l'entourent. Mais ce faisant, ils créent un appel d'eau, une eau saumâtre, qui monte rapidement jusqu'au cou de Maïra. Tous les efforts pour l'extraire de ce piège sont vains. Ses jambes sont entravées et elle pousse des cris de douleur quand on essaye de la tracter hors de l'eau avec une corde. Pour sauver Omaïra, il faudrait faire venir une motopompe de Bogota afin de drainer l'eau et accéder aux débris qui la retiennent prisonnière. Mais depuis le matin, ce sont plutôt des journalistes venus du monde entier que des hélicoptères de la capitale acheminent sur les lieux du drame.
Siento por ti. siento por ti. Si tú supieras mi amor, mi corazón es feliz. Corre, corre, que te coge mamá.
La sombra negra, mamá.
Que ya viene.
Le calvaire de Maïra.
Affaires sensibles sur France Inter.
Vendredi 15 novembre 1985. Voilà plus de 30 heures que Maïra survit dans l'eau et la boue sans pouvoir être extraite des décombres. Pour la maintenir en vie, les secouristes se relaient auprès d'elle, lui récitent des comptines et la font parler pour la tenir éveillée. Omaïra sympathise avec ceux qui luttent pour sa survie. « Allez vous reposer un moment, puis vous reviendrez me sortir », leur dit-elle. Elle sympathise également avec de nombreux journalistes débarqués sur place. Parmi eux, Evaristo Canette, qui travaille pour la chaîne de télévision espagnole TVE. Des secouristes l'ont guidé vers l'endroit où est enfermé Omaïra. Ému et pressentant immédiatement le potentiel télévisuel de la scène, Canette braque sa caméra sur elle. Intriguée, Omaïra lui demande si elle peut adresser quelques mots qu'elle destine à sa mère, qu'elle sait en sécurité, à Bogota. Bien sûr. Maman, si tu m'écoutes, je crois que oui. Prie pour que je puisse marcher et pour que ces gens m'aident. Adieu, maman. Je vis car je dois vivre. Mourir à 13 ans pour une petite fille, ce n'est pas juste. Des mots déchirants, remplis tout à la fois de résignation face à son sort et de l'espoir qu'elle pourra être sauvée et marcher à nouveau. Pour Omaïra, la caméra est une bouée de sauvetage, une manière de se raccrocher à la vie. À Evaristo Canette, elle déclare « Quand on me sortira de là, il faudra me filmer, hein, triomphante. » Mais à d'autres moments, elle trouve la présence des journalistes envahissante. « Please, no more photography », bégaye-t-elle dans un anglais approximatif. Mais à mesure que les heures passent, elle commence à délirer. Et elle confie au secouriste sa crainte de rater son examen de maths, prévu le lendemain, comme si rien ne s'était passé. Le samedi matin à l'aube, un journaliste français arrive à Armero. Il s'appelle Franck Fournier. Au micro de France Inter, en 2014, il témoigne de sa rencontre avec Omaïra.
C'est une personne qui était incroyablement gentille. Elle était dans un état semi-comateux, mais elle parlait un peu et elle a réalisé que j'étais pas local. Et donc, elle a commencé à me dire un mot en anglais, elle s'est mise à sourire parce que ça la faisait rire de parler good morning et de dire deux mots en anglais. Elle était incroyablement touchante.
Le matin où il rencontre Omaïra, Franck Fournier la prend en photo. Ce portrait sidérant fera la une de Paris Match quelques semaines plus tard et vaudra à Fournier le prestigieux prix World Press l'année suivante. Voilà la description qu'en font de son côté l'écrivain Didier Decoing. Le portrait de Fournier était vrai, simple et très étrange. En approchant de la fin de son calvaire, Omaïra a porté en elle les stigmates de sa souffrance. Ses mains notamment étaient très abîmées par l'eau. On les aurait dit de cuir ou de bronze. En tout cas, elle n'était presque plus humaine. Et les yeux d'Omaïra étaient deux ovales noirs, profonds. C'était des yeux comme ceux que l'on prête aux êtres venus d'autres mondes, descendus des étoiles. Franck Fournier lui assiste aux dernières heures d'Omaïra. Jusqu'au bout, les secouristes espèrent la sauver. La motopompe, tant attendue, arrive enfin de Bogota, par hélicoptère. Et on parvient à évacuer progressivement l'eau qui entoure la victime, révélant l'importance de ses blessures. Ses jambes sont broyées par les pans de murs en ciment. Les secouristes réalisent alors qu'elle ne pourrait pas être extraite sans une amputation. Et malheureusement, il est trop tard. En état d'hypothermie, épuisée par 60 heures de lutte pour la vie, Omaïra meurt d'un arrêt cardiaque. sans un bruit. Il est 9h16. Autour d'elle, les secouristes détournent le regard pour pleurer. Dernière cruauté du destin. Comme le corps de Mayra ne peut être sorti intact des décombres qui l'enserrent, on décide de la laisser là. On la recouvre d'un sac de toile, linceul de fortune pour la petite martyre Vermeiro. Et le lendemain, le monde entier connaît son nom.
La première tentative pour la dégager échoue. Une motopompe arrivera un peu plus tard de Bogota. Un peu trop tard. Entre-temps, Omeira, à bout, s'est éteinte.
Si vous souhaitez venir en aide aux rescapés de la catastrophe, excusez-moi parce que je suis un peu bouleversé comme vous, voici le numéro de compte chèque postal auquel vous pouvez adresser vos dons. Croix-Rouge de Colombie, compte chèque postal 600-00.
Vous venez d'entendre la fin du reportage télévisé consacré à Mayra lors du 13h de TF1 le 17 novembre 1985. Les images utilisées sont celles filmées par Evaristo Canette. Et elles font le tour du monde. La BBC les diffuse dès le samedi soir, soit quelques heures après la mort de Mayra. En Espagne, la chaîne TVE les utilise pour son magazine dominical El Domingo, faisant le choix d'un montage à suspense, faisant espérer aux téléspectateurs une fin heureuse, avant de révéler la mort de la fillette. Immédiatement, la diffusion de ces images insoutenables, en plein pic d'audience, fait polémique. L'horreur en Mondiovision, titre le quotidien de Paris le 19 novembre. Polémique sur une tragédie en gros plan, lit-on dans le Figaro du même jour. De très nombreux spectateurs écrivent à Antenne 2 et à TF1 pour faire part de leur indignation. Et les deux chaînes sont contraintes de justifier leur choix éditorial. Elles utilisent le même argument. Les images de l'agonie d'Omaira, au-delà de leur aspect sensationnel, permettent d'informer les Français sur la tragédie d'Armero. Pour Pierre-Henri Arnstam, directeur de la rédaction d'Antenne 2, la séquence illustre mieux que tout l'absence de moyens de sauvetage, l'impuissance des équipes sur place. Alain Danvers, patron de l'information de TF1, compare de son côté les images d'Omaira à celles de la petite fille au napalm lors de la guerre du Vietnam. C'est très rare de se retrouver face à de tels documents, avance-t-il. Mais cette position ne fait pas l'unanimité au sein de la profession. France 3, par exemple, refuse de diffuser les images et critique sévèrement le choix de ses confrères. Écoutons sur ce point la présentatrice Geneviève Guichenet sur France Culture en 1989.
C'était le voyeurisme au pire sens du terme. Et je trouvais... Et nous avons tous trouvé que c'était vraiment gratuit, irrespectueux. Cette petite fille, c'était déjà tellement horrible, les conditions dans lesquelles elle était morte. Bien sûr, elle n'aurait jamais su, et elle n'a jamais su, que tout ça avait été diffusé. Et alors ? Et pour ça, nous devions le diffuser, pour permettre aux téléspectateurs français de se rincer l'œil. Beaucoup de téléspectateurs, d'ailleurs, ont protesté que ces images soient diffusées, et ils ont eu raison de le faire. Car encore une fois, l'objet d'un journal est de donner des informations. En la circonstance, il n'y avait pas d'informations. Sauf alors à être tout à fait honnête et à dire aux téléspectateurs, mesdames, messieurs, voici maintenant une séquence en images où il n'y a pas d'informations, mais vous allez pouvoir assister à une mort en direct.
Une mort en direct ? Est-ce bien cela que les téléspectateurs ont vu sur Antenne 2 et sur TF1, comme l'affirme Geneviève Guichenet ? Non. Car à aucun moment, une image d'Omaira morte n'a été montrée à la télé. Mais la combinaison des images avec la voix off du journaliste détaillant les conditions de la mort de l'adolescente, au regard de petite fille, produit cet effet sur le spectateur et lui donne l'impression d'avoir transgressé un interdit fondamental. Car filmer et regarder la mort est un tabou. Dans Le Figaro, un homme d'église, l'archevêque de Bordeaux, Pierre Hette, accuse les journalistes. « Il y a donc parmi nous suffisamment de voyeurs pour tout voler à l'autre, jusqu'à sa mort, dit-il. » La diffusion des images de Mayra pose au fond une grande question éthique. Faut-il limiter la liberté d'informer au nom de la morale ? Faut-il renoncer à diffuser certains sujets, certaines images, car elles seraient choquantes ou impudiques ? Face à cette redoutable question, certains défendent la moralité fondamentale du journalisme. C'est le cas de l'écrivain Jean Co, qui écrit dans le Figaro. On ne peut pas reprocher à un reporter de faire son métier. le journaliste est en deçà ou au-delà de la morale. Avis partagé par un certain Pierre Desproges, pour qui la seule boussole du journalisme doit être l'exigence d'informer.
Je repense à l'histoire de cette petite fille qui est morte dans la boue. On a beaucoup critiqué la presse et la télévision, alors que le journaliste, à mon avis, a fait son métier. Il n'y a pas de morale.
Il n'y a pas de limite au métier.
Non, il n'y a pas de limite à l'information. Je veux dire, on ne peut pas, à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans le monde, réunir un conseil de gâteux pour que ces gens-là décident pour nous, si on est assez grand pour comprendre, pour analyser, pour les événements. Donc je pense que le métier de journaliste, c'est d'informer au maximum. Bon, après, si les choses sont déformées, c'est pas la faute de la presse. Parce qu'il n'y a pas 36 solutions. Ou bien on informe, ou on n'informe pas.
En France, les images d'Omaïra alimentent encore aujourd'hui le procès en charognerie de la télé. Mais en Colombie, elles n'ont pas déclenché de polémique. Non, c'est plutôt l'incurie du gouvernement qui n'a rien fait pour empêcher la catastrophe qui est au cœur des critiques dans les semaines qui suivent le drame. Le volcan n'a pas tué 22 000 personnes. C'est le gouvernement qui les a tués, accuse les rescapés. La mère d'Omaïra n'en voulut jamais au caméraman Evaristo Canete d'avoir filmé sa fille. En 2007, elle disait à France 2 « C'est une satisfaction pour moi d'avoir une fille qui a démontré sa valeur à tous et que tout le monde la connaisse. » Car aujourd'hui, en Colombie, personne n'oublie Omaïra et son courage face à la mort. La visite du pape Jean-Paul II à Armero en 86 lui a même donné une aura de sainte. La tombe érigée sur le lieu de sa mort est devenue un lieu de pèlerinage. Elle est continuellement recouverte de fleurs, de bougies et visitée par des habitants qui viennent lui confier leurs prières. En témoigne ce reportage de France 24 qui s'est rendu sur les lieux en 2016.
Au fil des ans, les ex-voto remerciant la petite martyre se sont multipliés.
Je lui ai demandé de m'aider, aussi bien économiquement qu'à la maison, dans mon foyer. Et ma vie a changé à 1000%.
Plus de 30 ans après les faits, la mémoire de la catastrophe d'Armero s'efface. De la ville, il ne reste aujourd'hui plus rien. À part une immensité désolée, quelques tombes à l'abandon et des moustiques. Elle n'a jamais été reconstruite. On est préparé à perdre un proche ou une maison, mais pas sa ville natale, expliqué au Figaro en 2005 un survivant inconsolable. Comme d'autres, il a tenté de refaire sa vie ailleurs, restant seul avec ses souvenirs. L'Armero seul reste aujourd'hui l'image d'une petite fille mourante qui, 30 ans après, continue de nous fixer avec ses yeux noirs. Seul reste aussi le Nevado del Ruiz, trônant imperturbable au-dessus des hommes et de leurs drames. La menace qu'il constitue n'a pas disparu. En avril dernier, le volcan a été placé en alerte orange et le gouvernement colombien, craignant une nouvelle éruption, a organisé l'évacuation des familles vivant proche du cratère. Signe que les leçons de la tragédie d'Armero ont été tirées.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'agonie d'Omaïra Sánchez. Notre invité, Jean-Stéphane Carnel. Bonjour.
Bonjour Fabrice Drouel.
Maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université Grenoble-Alpes, vous êtes l'auteur d'un article au sujet d'Omaïra Sánchez, intitulé « Le regard qui traumatisa la télévision ». C'était en 2009 et vous êtes dans les studios de France Bleu à Grenoble. Qu'il soit remercié. D'abord, pourquoi avoir choisi d'écrire sur ce sujet précis ?
Alors, pourquoi j'ai choisi de travailler sur cette image? C'était à l'époque où je préparais mon doctorat. Donc, j'avais fait un doctorat sur la réutilisation des images d'archives. Et cette image, enfin cette séquence hein, plutôt d'Omaïra Sánchez revenait en fait assez fréquemment dans mes différentes recherches. Et un petit peu comme dans le cadre de votre documentaire, j'ai essayé de comprendre pourquoi cette image est très différente des autres en fait. Et totalement unique hein, dans l'histoire de la télévision, en tout cas française. Essayer de comprendre un petit peu les ressorts qui ont fait qu'elle marque encore l'histoire, et même là, plus de presque 40 ans après les faits, oui.
Alors je fais le calcul, vous avez passé votre doctorat donc en 2009, donc en 1985, vous étiez bien trop jeune pour avoir eu conscience de ce qui se passait, vous ne l'avez pas vécu en direct.
Tout à fait, non, j'ai pas vécu ça en direct, j'ai découvert l'image bien plus tard.
Bon. Vous dites que c'était un moment important de l'histoire de la télévision, française comme d'autres télés, mais on va rester en France. C'était une rupture, c'est un tournant, c'est un changement, au-delà d'être quelque chose d'important ?
Alors, je pense qu'il y a effectivement dans les pratiques journalistiques, il y a eu un sans doute avant Omaïra et un après Omaïra sur en tout cas ce type de visuel. On a vu un petit peu plus récemment, hein, autour des années 2015, des images un petit peu similaires. Là, je fais référence aux images d'Alan Kurdi qui ont été traitées de manière radicalement différente d'Omaïra. Et en fait, je n'ai pas, en tout cas moi, dans mes recherches de doctorat, puis ensuite, je n'ai jamais trouvé en fait d'équivalent à ce type d'image, alors que, comme vous l'avez aussi dit un petit peu dans votre documentaire, des images de mort en direct, même si Omaïra n'est pas complètement une mort en direct, hein, on pourra y revenir, sont assez fréquentes en fait en télévision. Mmh. Ouais.
Alors on a aussi, concernant la photo, évidemment, la photo du calvaire de cette jeune vietnamienne, brûlée au napalm. Là aussi, le choc est grand. Et là, c'est pas de la télé, hein, c'est une photo.
Oui, c'est l'image fixe. C'est l'image fixe et elle n'est pas. Alors, elle renvoie aussi à tout un système de valeurs, hein, qui est assez chargé. Et, alors, en particulier évidemment pour les Américains, hein, on est en train de leur montrer leur armée qui est en train de massacrer des enfants. Là, avec Omaïra, on est quand même sur quelque chose d'assez différent. Et puis l'image, en tout cas celle que vous avez analysée dans votre documentaire et que j'analyse dans mon article, c'est la séquence, c'est la vidéo animée avec. Bah, toute la problématique de la durée, du contexte d'énonciation, hein, comment tout ça va nous être présenté, et elle va nous parler, et puis aussi le degré de zoom. Alors vous avez insisté là-dessus dans votre commentaire, dans le documentaire, mais évidemment, le regard d'Omaïra reste quelque chose qui est extrêmement marquant. On a quasiment jamais, en fait, en télévision, un niveau de zoom aussi important sur le regard de quelqu'un, et même très rarement quelqu'un qui va nous regarder directement dans les yeux dans ce type de reportage.
Si je vous ai bien lu, selon vous, il n'est pas suffisant de dire que ces images ont choqué à cause de leur sujet, autrement dit l'agonie d'une enfant. Mm-hmm. Pourquoi ?
Alors, en sciences de l'information, hein, qui est ma discipline, on a plusieurs éléments qui permettent de voir un petit peu ce qui va créer le choc. Alors, évidemment, la séquence en elle-même, hein, son contenu, l'image de l'agonie de l'enfant est en tant que telle choquant, mais à mon sens, il y a d'autres éléments en fait qui viennent s'ajouter à ça, au moins deux autres, hein, toute la charge symbolique en fait qui est liée à cette image, pour en parler assez vite, peut-être qu'on y reviendra, mais on a aussi, on ressent en fait cette pauvreté qui tue, on a ce décalage, hein, avec notre confort d'occidental, avec ce qu'on appelait les pays en voie de développement à l'époque, et puis toute cette question autour du voyeurisme, est-ce que vraiment la télévision peut faire ça? Et comme vous l'avez cité, vous, à la fin de votre documentaire, par rapport à cette charge symbolique, ce qui est vécu au niveau de la Colombie est assez différent d'ailleurs. Donc en fait, ça nous renvoie aussi à des problématiques qui sont très occidentales. Et au-delà de même de ça, on a le troisième élément qui est le contexte d'énonciation, qui lui est assez choquant aussi. Hein, donc il faut, alors vous l'avez rappelé, hein, on est le 17 novembre 85, mais donc on est le dimanche midi, mmh, quand ça arrive sur les antennes françaises, donc TF1 et Antenne 2. Alors pour nos auditeurs et auditrices les plus jeunes, il faut quand même se rendre compte qu'à l'époque, il n'y a que quatre chaînes, mais bon, Canal venait d'exister, donc en fait, il n'y a que trois chaînes, que les audiences, en fait, du 13h du dimanche sont absolument monstrueuses, hein. On est sur plus de 10 millions de téléspectateurs sans problème, qui évidemment ne s'attendent pas à avoir ça, et la manière dont ça va nous être présenté par les différents présentateurs journalistes, et entre autres vous avez montré Jean-Claude Bourret, a une charge également qui va venir renforcer en fait le choc créé par cette image.
Et pour les journalistes aussi, Noël Mamère me confiait, cette affaire m'est tombée dessus. Évidemment, c'est très difficile à gérer pour un journaliste qui a des principes, pour tous les journalistes qui ont des principes, qui ont une éthique. Comment se dépatouiller, si je puis dire, avec ça?
C'est une vaste question. Ce qu'on peut, alors, si on revient un petit peu sur l'origine, ce que vous avez fait dans le documentaire, mais donc c'est des images qui vont arriver par ce qu'on appelle les EVN, hein, donc en fait par des bourses d'échange. Ce sont des images qui proviennent de la TVE, donc de la télévision espagnole, et qui vont arriver en fait dans les rédacs entre midi et midi et demi pour des diffusions à partir de 13h. Donc il y a en fait assez peu de temps pour anticiper, pour comprendre, pour recouper les informations par rapport à ça. Et si on discute avec les journalistes qui étaient dans ces salles, la plupart d'entre eux ont été vraiment submergés par l'émotion. Et oui. En fait, c'est l'émotion qui a vraiment guidé la volonté de diffuser ce reportage. Et ce qui est assez étonnant aussi, c'est que quasiment toutes les rédactions, en tout cas celles de TF1 et celles d'Antenne 2, ont réagi de manière quasi équivalente.
Alors, je reviens sur ce que disait et affirmait Geneviève Guichenet de France 3. Elle protestait en disant « on a filmé la mort en direct ». Alors, soyons clairs là-dessus. On n'a pas filmé la mort en direct. Vous confirmez ?
Tout à fait. À aucun moment, on ne voit Omaira mourir, décéder. Ce que l'on voit, c'est l'agonie, en fait, de cet enfant.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Jean-Stéphane Carnel, vous rappelez dans votre article que les images du JT étaient en zoom ou en très gros plan, de sorte qu'on ne voyait que le visage d'Omaira et pas du tout son environnement. Par conséquent, les téléspectateurs n'ont pas compris pourquoi Omaira était bloquée, pourquoi personne ne pouvait la sauver. Ça, c'est le pouvoir de l'image qui peut passer à côté de l'info.
C'est exactement ça, oui. On a un sujet qui est assez long, hein, déjà pour des standards de journaux télévisés. Et pendant plus de la moitié de ce temps, quasiment 2 minutes, hein, si on prend celui de TF1, on est vraiment dans le regard d'Omaira. C'est ce qui nous est proposé avec un niveau de zoom qui est assez inédit en télévision. C'est assez rare d'avoir le regard aussi important. Et c'est juste les 15-20 dernières secondes où on va avoir quelques plans nous montrant un petit peu les secours et où on voit d'ailleurs des secouristes qui sont très mal équipés, avec juste quelques cordes qui vont essayer de bouger un petit peu du bois pour essayer de la libérer. Mmh. Et en fait, on a le commentaire aussi du journaliste ou de la journaliste qui est complètement absorbé, en fait, qui est complètement phagocyté par cette image extrêmement forte de cet enfant qui, en plus, non seulement on la voit en très gros zoom, mais en plus, elle nous parle. En réalité, elle parle à ses parents. Hein. C'est une espèce de testament, mais on a quelqu'un qui est face à nous pendant presque une minute, les yeux dans les yeux, hein, vraiment ce connecteur extrêmement puissant et qui nous parle. Et c'est extrêmement compliqué, évidemment, de prendre du recul par rapport à ça. Et les images nous proposent assez peu hein, de contexte sur les secouristes.
Est-ce que la radio, de facto et par nature, échappe à ce danger, bah forcément l'image, il n'y a pas d'image, mais à ce danger de la façon d'informer qui détournerait du vrai sujet?
Alors, la radio a certes... Enfin, passons par le commentaire est l'élément vraiment central à la radio, à la différence de la télévision où c'est l'image qui va pouvoir faire passer les messages. Évidemment, la même information en radio aurait été perçue de manière très différente. Mmh. Et d'ailleurs, si on va même un peu plus loin dans l'analyse de cette image, ce qui va sauter aux yeux, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est que justement, il y a des caméras sur place. Et c'est ça qui va beaucoup choquer l'opinion, en tout cas au niveau français. Personne ne va comprendre pourquoi on est en train de filmer cette image et pourquoi les caméramans ne vont pas poser leur caméra pour aller aider l'enfant. Et aussi ce décalage entre ce qui va se passer en Colombie, ce drame où on a des sauveteurs qui justement ont leurs bras, ont des cordes, à l'inverse des occidentaux qui arrivent avec des hélicoptères, avec du matériel électronique pour filmer. On a un décalage qui en fait n'est pas montré à l'image mais nous apparaît comme jamais.
Alors, Omaira n'a pas été montrée qu'à la télé, mais aussi à la une de Paris Match, notamment. La photo a été prise par Franck Fournier, qui a reçu le prestigieux prix World Press en 85 pour cette image restée célèbre. Jean Brossier d'Affaires Sensibles a pu le joindre pour cette émission, Affaires Sensibles, et lui a demandé s'il s'est senti le droit de photographier l'agonie d'une enfant.
Vous savez, quand vous êtes dans des situations comme cela, il est évident que vous vous posez toujours ces questions. Est-ce que je dois le faire? Est-ce que je ne peux pas le faire? Est-ce que c'est important de le faire? Et je suis là en tant que reporter et mon travail, c'est de documenter ce qui se passe. M'échapper devant ce travail serait une erreur. Maintenant, si émotionnellement et physiquement je ne suis pas capable de le faire, il faut à ce moment-là que moi je m'évince, qu'il faut que je m'en aille parce que je dérange les gens, je ne suis pas là. Je deviens un poids et une difficulté pour les gens qui sont autour. Je ne suis pas là pour exprimer ma peine. Je suis là pour documenter. Je ne suis pas là pour exprimer la violence que je ressens face à quelque chose d'une injustice. Si je pouvais la sauver, je l'aurais sauvée. Et avant de prendre des photos ou avant de faire des documents, en l'occurrence, je savais que Ça faisait 2 jours et demi qu'elle était là. Je savais qu'elle ne pouvait pas être sauvée avec l'équipement qui était accessible à ce moment-là. C'était impensable.
Du coup, vous n'avez pas du tout compris à l'époque la polémique qui a entouré la publication de vos photos, les images télévisuelles aussi. Vous n'avez pas compris le procès en voyeurisme qu'on a adressé aux journalistes?
Moi, ça ne me dérangeait pas parce que je continue à faire mon travail. Et puis, je comprends la douleur et la... La mort n'est pas individuelle, elle est relationnelle. Et il se trouve que Komaira avait été présentée à la télévision, elle avait été documentée à la télévision, et donc les gens la connaissaient, et lorsqu'ils ont vu qu'elle était morte, c'était devenu intenable, parce que c'était une enfant, et tout ce qui touche un enfant, souvent, on réagit tous d'une manière violente, émotionnellement, les gens étaient vraiment de mauvaise humeur par rapport à ça, ce que je comprends.
Jean-Stéphane Carnel, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Je le comprends, hein, évidemment un petit peu comme tout le monde, à partir du moment où on a travaillé sur cette image, on se pose cette question, fallait-il la diffuser ou pas ? La photographie de Franck Fournier est un peu différente, puisque déjà c'est une photographie, donc c'est une image fixe, elle ne nous parle pas hein, de fait, et aussi elle va être présentée dans un contexte qui est assez différent. Sur Paris Match, c'est une photographie, on a moins le contexte dans lequel elle va être présentée dans les journaux télévisés, vous l'avez remis dans votre documentaire, mais quand elle nous est présentée, on ne connaît rien de l'histoire et le présentateur nous annonce déjà que elle est morte.
Oui.
Et en tant que téléspectateur, c'est compliqué. Ça va même plus loin. Hein. Jean-Claude Bourret va dire que le document que nous allons voir restera à jamais gravé dans nos mémoires. Et à la fin, d'ailleurs, il va bafouiller. Il y a toute une charge émotionnelle que porte le journaliste qui nous présente et que nous, en tant que téléspectateurs, bah, on reçoit sans vraiment savoir ce à quoi on va être amené, enfin, ce que l'on va regarder. Et évidemment, tout ça va s'amplifier, la télévision va amplifier par rapport à ça. Et moi, Franck Fournier, je comprends évidemment hein, sa logique et d'avoir pris ses photographies, de les avoir diffusées, tout comme je comprends le journaliste de la télévision espagnole. Une fois que le contact a été fait, une fois qu'on a ces images, ça paraît vraiment très délicat de ne pas chercher à les diffuser.
Bien, merci infiniment Jean-Stéphane Carnel. Je rappelle ce que vous avez évoqué en début d'interview, hein, une image de mort d'enfant qui a été diffusée dans les médias, qui a beaucoup ému, effectivement, celle d'Alan Kurdi, hein, cet enfant kurde retrouvé mort sur une plage turque le 2 septembre 2015. Merci infiniment, au revoir.
Merci à vous, au revoir.
Et Affaires Sensibles aujourd'hui, le drame d'Omaïra, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Florian Dorimini. Je recommence. Florian Dorimini.